Et tout de suite, Raphaël, c'est la solution du jour trouvée par Fanny Rasque.
Acheter une maison, un appartement, c'est vrai que c'est un choix très important. On s'engage pour l'avenir, on dépense beaucoup d'argent, on ne veut pas se tromper forcément et du coup on hésite, c'est bien normal. Pour se rassurer, Fanny, il existe une solution et elle s'appelle Try and Buy.
Oui, Try and Buy pour essayer avant d'acheter en bon français. L'idée pour les acheteurs, c'est de dépenser environ 150 ou 200 euros pour passer une nuit façon Airbnb dans votre futur chez vous. Concrètement, ça ne représente que 0,05% du prix de vente, donc vraiment mini investissement pour être sûr et certain que, par exemple, il n'y a pas de bruit que vous n'auriez pas entendu, que la cuisine est assez grande à l'usage, bref, que vous vous sentez bien dans cette maison. Bonjour Thomas Père.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez co-créé Try and Buy il y a quelques mois seulement, l'été dernier. Alors, imaginons, je veux acheter une maison, je vais sur votre site, comment ça se passe ?
Alors, via notre plateforme, tryandbuy.fr, le futur acquéreur fait une recherche d'un bien et une fois qu'il a trouvé le bien de ses rêves, il peut réserver une à cinq nuits, un essai avant de l'acheter. Donc c'est tout simple, comme on l'a dit. C'est par exemple pour une maison à 400 000 euros, ça va être 200 euros la nuit. C'est 0,05% du prix du bien. Et une fois qu'il a effectué cet essai, il décide s'il achète ou non. C'est pour être sûr de l'acquisition la plus importante d'une vie.
Ça veut dire que le fameux coup de cœur dont on parle toujours en immobilier, en fait, ça n'existe pas ?
Alors, le coup de cœur, ça existe. Il y a différentes personnes. Il y en a, quand ils vont voir un bien, ils savent ce qu'ils ont envie, leurs besoins. Donc, ils vont directement l'acheter. Mais pour certains, il y a beaucoup... Lors d'un achat immobilier, il y a énormément de doutes et d'inquiétudes. Et le fait de l'essayer pendant une à cinq nuits, ça va permettre d'enlever ce doute. Et pour le vendeur, ça va être un plus, car une fois qu'on est totalement convaincu de son achat, on va moins négocier, on ne va pas vouloir que le bien leur passe sous le nez, si je peux me permettre.
Et au niveau du prix pour le vendeur, de l'autre côté, ça veut aussi dire qu'on a des gens qui sont capables de mettre peut-être plus d'argent que ce qu'ils imaginaient dans un premier temps pour être sûr qu'ils aient bien cette maison qui leur plaît. Il y a un double avantage aussi pour eux.
C'est exactement ça. Déjà, c'est un gage de transparence et de qualité pour le vendeur, comme pour l'acquisition de, par exemple, d'une voiture d'occasion. Si le propriétaire vous dit « Ah non, c'est impossible de l'essayer », vous allez avoir des doutes, alors que là, le propriétaire est totalement transparent. Il vous dit, mais écoutez, vous pouvez l'essayer, même s'il n'y a pas forcément l'essai. C'est toujours ce gage de transparence. Et une fois qu'on est totalement convaincu de son achat, on va être prêt à mettre, au lieu de, par exemple, une maison à 400 000 euros, au lieu de négocier à 380 000, on va dire, bon, ok, on la prend à 400 000.
Riyad, notre coach.
Je trouve ça bien de. Alors du côté acheteur, je trouve ça très bien de pouvoir essayer avant, mais effectivement, ça élimine le fameux coup de cœur qu'on connaît, puisqu'on va connaître, on va commencer à découvrir le voisin qui râle, qui passe l'aspirateur, etc. Je vois pas bien l'intérêt pour le vendeur en fait, sauf s'il est absolument sûr et certain de son bien, mais je vois pas l'intérêt quand on pense aujourd'hui les vendeurs qui ont tendance à faire du home staging pour vite revendre et que ça soit joli et que ça soit bien foutu. Je me dis aujourd'hui en prenant cette solution, il prend le risque d'avoir des gens chez lui pendant 5 jours, encore faudra m'expliquer comment ça marche, pendant jusqu'à 5 jours, et qui à la fin vont voir tous les défauts qu'ils n'avaient pas vus au premier coup. Je vois pas bien l'intérêt en fait pour le côté vendeur, quoi.
Alors pour le vendeur, c'est comme j'ai dit, c'est d'être totalement transparent. Nous, Try and Buy, on est vraiment un gage de transparence et de qualité. On va sélectionner les biens.
D'accord, ça veut dire qu'on est sûr du bien en fait.
Oui, par exemple là on a un bien dans le Cantal. Il est top, il est rénové, il est très agréable à vivre et ça va différencier les biens qui sont, comme vous dites, avec des vis, avec le voisin qui est bruyant ou autre. Mais quand le vendeur est prêt à le faire essayer, c'est D'accord. qu'il est totalement transparent. Et donc c'est vraiment, quand vous voulez acheter un bien, quand vous avez le choix entre un bien à essayer et l'autre bien qui n'est pas essayé, mais vous allez systématiquement vers le bien à essayer. Et la main.
Alors, juste une question pratique. Côté assurance, ça se passe comment ?
Alors, nous, on a un partenaire, AXA.
On laisse ses meubles à l'intérieur, hein, pour que ce soit bien clair. On ne déménage pas, on ne pré-déménage pas juste
donc
pour ses
visites. Donc, on s'en va chez soi pendant 1 à 5 jours, c'est ça ?
On va
squatter
chez
la famille.
Pour le moment, on est beaucoup sur les biens meublés, les résidences secondaires. Elles sont souvent meublées, ils ont l'habitude de location, mais petit à petit, on arrive dans les villes, dans la périphérie urbaine. Donc, les propriétaires, on essaye le bien avec les meubles du propriétaire et on a notre partenaire, AXA, qui couvre jusqu'à 1,5 million tous les biens pendant l'essai.
Vous êtes quoi? Un tiers de confiance? Une agence immobilière? Les agences peuvent faire appel à vous pour les aider justement quand elles ont des difficultés avec certains biens? Comment ça se passe? Il y a les deux options?
Alors, on est vraiment un argument de vente pour les agences immobilières. Actuellement, on travaille avec plus de 200 agences immobilières en France métropolitaine, mais aussi en Guyane, Martinique, Suisse, Espagne, Portugal, jusqu'aux États-Unis. On est même entreprise de confiance du groupe La Forêt. Donc, on a commencé en juillet 2019. Donc, c'est très récent, mais on se développe très rapidement. On est vraiment un argument de vente moderne et fidélisant pour les agences immobilières. On travaille avec elles. C'est un trop gros marché. C'est plus d'un million de transactions l'année dernière, la vente immobilière en France de l'ancien. Donc, nous, c'est pas notre rôle de vendre ces biens. Notre rôle, c'est de proposer un argument de vente pour les agences immobilières.
Votre objectif à terme, c'est même de se développer à l'international. Est-ce qu'il y a encore des freins? On l'abordait un tout petit peu, mais des freins à simplement accepter que des gens viennent s'installer chez soi pendant une ou deux nuits?
Alors, en France, c'est beaucoup dans les mœurs. Airbnb, Blablacar, ça nous a ouvert la voie. Les gens sont plus opportuns. Après, c'est sûr que pour des personnes un peu plus âgées qui vendent leurs biens, ça va... Ce n'est pas dans leur principe, mais petit à petit, on y arrive. Là, on a vu, on a fait un essai, ça s'est conclu par une vente. Voilà, on est dans cette dynamique. On fait notre première levée de fonds en juillet 2020. Ça va nous permettre mais de travailler toutes ces remarques pour après partir à l'international, être bien présent sur le territoire français et déjà voilà, partir au Canada, aux États-Unis.
Combien de ventes réalisées justement grâce à Try and Buy? Des gens qui hésitaient et qui finalement se sont dit « Allez, j'y vais, maintenant que j'ai essayé ».
Alors, nous, on a commencé en juillet, donc c'est toujours long à mettre en place. Il a fallu faire ce réseau d'agences, puis convaincre les directeurs d'agences, les commerciaux, les propriétaires et après les acquéreurs. Donc, on a eu un bien qui a été essayé et vendu. On a eu un bien qui n'a pas été essayé, mais qui a été vendu. Comme j'ai dit, c'est un gage de transparence. Là, on a actuellement une dizaine de biens sur notre site. Donc, la mayonnaise prend. Là, par exemple, ce matin, il y a deux agences qui m'ont appelé. Là, la mayonnaise est en train de prendre et c'est pour ça qu'on est présent. On va faire notre levée de fonds. Et on va être, j'espère, un des acteurs de l'immobilier dans les années à venir.
On va vous suivre en tout cas. Try and Buy, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette solution aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 58.
Europe 1. Restez avec nous, on va s'intéresser au cuir et à ses alternatives. De plus en plus de Français cherchent des produits qui lui ressemblent. Alors qu'existe-t-il sur le marché? On va explorer tout le secteur ensemble sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1. Midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, la France bouge. Et oui, et si vous vous intéressez au cuir, on va s'y intéresser ensemble à l'occasion du Leather World Paris. Vous allez découvrir qu'avec la montée du véganisme, les préoccupations environnementales, de plus en plus de nouvelles matières sont en train de se développer et de s'imposer sur le marché, même si le mot cuir ne peut être utilisé que s'il s'agit de peau animale. C'est d'ailleurs votre cas chez Ictios. Bonjour Benjamin Malatré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous travaillez le cuir marin. Votre start-up est née, je crois, après un dîner entre amis. Dîner qui a eu lieu en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé à ce dîner? Racontez-moi.
C'est ça. En fait, à ce dîner, on s'est rendu compte que les pots de poisson en fait, qu'on mangeait au restaurant, elles étaient jetées à la poubelle, toutes. Et en fait, en France, en faisant quelques recherches un petit peu après, c'est 50 000 tonnes de pots qui sont jetées comme ça.
50 000 pots, 50 000 tonnes de pots qui sont jetées, alors que ces pots, on pourrait les utiliser.
On pourrait et il faut les transformer. Parce que, en réalité, ces pots, si on ne les utilise pas, si on ne les transforme pas, elles ont un impact sur l'environnement. C'est-à-dire que ça va régénérer du CO2 et on ne va pas être dans une économie circulaire.
Donc, une fois que vous avez fait le constat, qu'est-ce qui se passe? Vous récupérez des pots de poisson et vous faites une première expérience?
C'est ça. Au-delà de ce constat, c'est une histoire d'amitié. En fait, au début, on est trois cofondateurs, donc Gauthier, Emmanuel et moi. Et on est, dès le lendemain de l'idée, on est allé récupérer une peau de poisson dans un sushi. Donc, c'est ultra disponible. à Rueil-Malmaison, en bas de chez nous. Et également des écorces d'arbres dans la forêt. Et on a fait un très vieux procédé de tannage qui consiste simplement à laisser mijoter des écorces et des peaux. Et deux mois après, on a eu un premier résultat.
Et qu'est-ce que ça donnait, ce premier résultat?
Alors, ça a donné un premier résultat qui n'était pas forcément très souple, qui n'était pas forcément très clair au niveau de la couleur. Donc, on avait encore largement de la marge pour s'améliorer, mais qui montrait que le cuir, enfin, que la peau était bien transformée en cuir. Donc, que la raison de la non-existence du cuir marin, elle n'est pas technique, elle est autre.
Alors justement, vous vous dites, il y a peut-être quelque chose à faire, un filon à exploiter. Vous envoyez des messages aux tanneries de France, il y en a pas mal, et vous recevez une réponse positive.
C'est ça, on a contacté toutes les tanneries de France, parce qu'aujourd'hui il n'existe pas de laboratoire pour sous-traiter une partie de tannage, c'est vraiment un secret, un savoir-faire, et on s'est dit qu'on aimerait bien le partager avec une tannerie. On a envoyé un mail à toutes les tanneries et la seule réponse venait d'une tannerie, notamment du président de la fédération des tanneries Mégisserie, qui a été agréablement surpris de voir de jeunes entrepreneurs se lancer dans un métier qui est justement historique un peu pour la France.
Oui, alors justement, puisque vous le dites, je me tourne vers Fanny, la France n'est pas championne du monde de cuir, mais elle a une expertise effectivement qui est reconnue en la matière.
Oui, on est quand même le quatrième exportateur de cuir au monde, avec 7 millions de tonnes de cuir fini produits chaque année. La filière cuir en France, elle représente 9400 entreprises, 130 000 salariés au total et 25 milliards de chiffre d'affaires, donc pas champion du monde, mais pas mauvais quand même.
Oui, pas mauvais quand même. Et du coup, on commence à développer cette filière de cuir marin. Hein. Vous n'aimez pas qu'on dise cuir de poisson, parce que tout de suite, on pense à l'odeur, forcément. Qu'est-ce qui se passe? Vous intégrez le centre de recherche du cuir à Lyon et puis vous travaillez sur le projet, comme ça, pendant plusieurs mois?
Alors c'est ça, on a commencé par un financement participatif, hein, pour financer une partie de recherche et de développement, notamment. On a levé 100 000 euros en l'espace de 30 jours, ce qui était 133% de l'objectif. On a pu du coup passer 6 mois au centre technique du cuir qui est basé à Lyon. On a des machines et on a également des experts qui sont venus nous challenger et qui sont venus nous accompagner aussi dans le développement du procédé.
Alors ce procédé, ça donne ce que nous voyons pour ceux qui nous suivent sur Europe1.fr ici. Hein, on a par exemple, alors ça ce sont des cuirs de saumon, on a le droit de dire cuir.
Exactement, il faut.
Cuir de saumon, cuir de carpe, cuir d'esturgeon. Pour l'instant, c'est sur ces poissons-là que vous travaillez.
Exactement, ça fait 3 ans que l'idée a germé, donc on est à 3 cuirs. L'idée, c'est d'en développer un nouveau tous les ans, parce qu'on mange une diversité de poissons différents, et donc il y a une diversité de cuirs à valoriser, de peaux à valoriser. Je peux citer le thon, je peux citer le cabillaud, et je peux aller encore plus loin, il y en a beaucoup.
Et vous l'avez précisé tout à l'heure, vous allez récupérer ces peaux. Vous êtes en relation avec les restaurants qui vous fournissent justement ces pots pour qu'on puisse les récupérer, les recycler.
C'est ça. En fait, c'est vraiment une ressource ultra disponible. Nous, on travaille avec un sushi shop de Lyon. Donc, en fait, on met en place un peu comme le bac jaune, des bacs de récupération de pots de poisson qui sont gardés en congélateur et qu'on vient récupérer toutes les semaines pour les transformer en cuir.
Riyad, notre coach.
Oh, moi, je trouve ça super, parce que déjà, on recycle quelque chose qu'on ne recyclait pas. Donc déjà, c'est super. Le résultat, il est assez impressionnant. Donc, je confirme aux auditeurs, ça ne pue pas. On ouais. peut avoir du cuir de poisson sans que ça sente mauvais, pas du tout. C'est très, très agréable au toucher. Vous visez quoi comme marché avec ces cuirs-là? C'est la maroquinerie c'est quoi? Quel marché vous visez exactement?
Alors, c'est exactement ça. C'est la maroquinerie, c'est l'horlogerie, pour des bracelets de montre, typiquement. La seule différence notable avec des cuirs exotiques ou bovins, ça va être la dimension de la peau. C'est-à-dire que du coup, beaucoup plus petites. Hein. Ce monde ne fait pas encore la taille d'une vache,
ouais,
malheureusement. Enfin, heureusement, je ne sais pas trop. Mais du coup, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut jouer sur les matières, les incruster de manière intelligente et créative. Et en fait, on accompagne les métiers de nos clients, les maroquiniers là-dessus, sur ces réflexions-là.
Et c'est purement manuel comme activité. Elle n'est pas industrialisable, parce que j'imagine.
Alors, c'est extrêmement manuel. On ne peut rien, on peut pas automatiser la production du cuir du début jusqu'à la fin. Ça prend jusqu'à 2 semaines. Comme chaque peau a son ADN, en fait, un peu comme nous tous, chaque procédé va être légèrement différent du précédent.
Vous dites chaque peau a son ADN. Ça signifie que chaque poisson va être différent à travailler aussi sur la partie tannage.
Extrêmement différent. L'esturgeon déjà est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense.
Alors il est là l'esturgeon.
Et c'est le dernier.
C'est le bleu. Voilà. Ouais, effectivement, il est plus épais.
Il est beaucoup plus épais. Il a du cartilage à sa surface. Il y a des poissons qui sont un peu plus gras. Il y a des poissons sans écailles. Il y a vraiment de grandes diversités. Chaque procédé est unique.
Justement, Fanny, si on regarde, ce qui est intéressant avec le cuir marin, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est qu'en fonction du poisson, on le disait, le cuir est très différent. Vous avez trouvé quoi, par exemple?
Oui, différent à travailler et différent en aspect quand on veut le transformer en sac ou en bracelet de montre. Le cuir de loup, par exemple, proposé par la marque Isadora Limaré, est doux et moucheté. Le cuir de perche, lui, il est très texturé. Et on a repéré aussi la marque Pantuna, qui commercialise du cuir de thon, vous en parliez tout à l'heure, qui n'a pas du tout la peau lisse, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a des écailles qui sont très marquées et très serrées aussi. Donc voilà, à chaque fois pour les créateurs, j'imagine que c'est un nouveau défi à relever.
Nouveau défi, vous nous confirmez?
Exactement.
Parce que vous devez tout réinventer.
On revient presque même sur la base du métier de maroquinier, qui est la création. Donc en fait, on remet presque cet enjeu-là au goût du jour. C'est un défi. Ce sont de nouveaux défis. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on est surpris tous les jours de voir un peu les solutions, les techniques qui sont utilisées pour transformer nos matériaux.
On reste ensemble et on continue à parler cuir et alternatives aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si la maroquinerie était aussi végétale, c'est ce que fait Paola Borde, qui transforme le raisin, le fenouil, la paille ou encore la mangue en maroquinerie. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge avec Raphaël Duchemin. Et avec les invités de ce début de semaine, on s'intéresse aux alternatives françaises en ce qui concerne le cuir. Alors si vous en connaissez ou si vous voulez poser des questions, eh bien rendez-vous sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Ah oui, les préoccupations écologiques sont de plus en plus présentes dans le quotidien des citoyens français. Et certains ont eu, on va le dire, un coup d'avance. C'est votre cas, Paola Borde. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de la marque éponyme. Vous travaillez la maroquinerie d'art végétal. Parce qu'en fait, quand... vous êtes tombée enceinte en 2014, vous avez cherché à vous occuper, comme souvent, et vous aviez un problème qu'ont beaucoup les femmes, vous ne pouviez pas porter de sac lourd.
C'est ça.
Vous êtes dit, je vais essayer d'en faire un.
Exactement. En fait, j'avais besoin que ma maison rentre dans un tout petit format.
Oui, ça on connaît bien.
C'est ça. Et je voulais absolument que mon sac soit en matière végétale et cousu au poincelier. J'étais intraitable là-dessus, et malheureusement, personne n'a voulu me le faire. Donc j'ai décidé de le faire moi-même. Donc j'ai appris auprès d'un maître artisan qui a bien voulu me montrer les bases de la maroquinerie. Et je me suis très vite rendu compte que ce qui fonctionne pour le cuir ne fonctionne pas forcément pour les matières végétales. Donc j'ai dû mettre au point pas mal de nouvelles techniques au point.
Notamment sur le fameux poincelier dont vous parliez. Alors, la manière de coudre le...
La manière de coudre, surtout au moment de commencer, au moment d'arrêter le point. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez appris? Vous faites votre sac?
Oui, exactement.
Et ça plaît?
Ça plaît énormément. On est surtout subjugué par la matière. Au début, on me dit que mon sac, il est en cuir. Je dis non, il est en matière végétale. C'est ça qui perturbe un petit peu.
Alors, ce sac, il est avec nous. Hein. Il c'est est ça. Ici, c'est celui-là.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Tout petit sac,
tout petit sac
qui est rempli, effectivement, je confirme. donc, vous décidez de vous lancer parce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être un marché. Votre mari vous pousse, d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est ça. Mon mari me pousse énormément. Après, j'ai une passion qui est en train de naître et je crée énormément. Et voilà. Et du coup, peu de temps après, Paola Borde ouvre ses portes.
Alors, vous changez de vie aussi, vous partez de Paris, vous vous installez en Bourgogne, votre mari vous suit dans l'aventure, vous rejoint dans l'aventure.
C'est ça.
Et alors, vous commencez à travailler des matières dingues, le fenouil, le champignon, l'ananas, la paille.
Oui, la mangue, le raisin.
Comment est-ce que vous vient cette idée-là d'aller chercher ces matières-là?
C'est véritablement une passion de plus en plus. Je fais le tour des matières et je me dis que, enfin, déjà la maroquinerie d'art végétal, ça n'existe pas en France. Et je me dis pourquoi pas créer une nouvelle discipline, parce que quand on fait des salons, on a beaucoup qui viennent me voir. Je peux apprendre sur des matières végétales. Désolée, il n'y a pas d'école. Donc ce que j'ai envie, c'est vraiment ça, c'est qu'on puisse apprendre sur des matières végétales.
Donc là, par exemple, on a différents modèles avec différentes matières. J'ai essayé de deviner et je suis tombée à côté à chaque fois. Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ça, on a un porte-carte qui est fabriqué en...
En paille.
En paille. Juste à côté, je pensais que c'était du liège, pas
non,
du tout.
C'est du fenouil.
C'est du fenouil.
C'est impossible de deviner à l'œil
c'est
nu.
C'est impossible de le voir. comment est-ce que vous les travaillez, ces matières ? On les travaille de manière différente ?
On les travaille de manière différente. Les matières végétales sont des matières qui sont assez fines. Et nous, ce qu'on veut dans la maroquinerie d'art, c'est la robustesse. On est obligé d'avoir une certaine épaisseur. Mais je ne veux pas tricher, je ne vais pas utiliser de plastique ou de renfort, ce genre de choses. Donc j'utilise la matière en elle-même. Voilà.
Et qu'est-ce que vous faites ? Vous superposez des
c'est
couches
ça. C'est ça ? Voilà, vous avez deviné.
Elles vont venir
se superposer. Et après, on coule ensemble. Et ensuite, on finit avec une teinture de finition.
Riyad ?
Ouais, moi je trouve ça super, déjà c'est original, c'est super original, je trouve ça super beau. Les textures végétales, je connaissais pas du tout. Alors moi j'aime moins celles qui ressemblent au cuir, j'ai envie de dire je préfère celles qui sont complètement originales, comme le champignon.
Le champignon, oui.
Ouais, c'est juste incroyable. Moi elle me disait que ça avait l'air de bien marcher, ça m'étonne pas du tout, il va falloir monter en production maintenant, quoi. Visiblement ils vendent plus que ce qu'ils ont.
C'est
donc,
ça.
Donc c'est une très bonne nouvelle, faut continuer comme ça, quoi.
Parce que tout est fait main, là... Il n'y a pas de possibilité d'industrialiser le process.
Non, le poincelier, on ne peut pas le faire en machine. Voilà.
Fanny, pour aider les créateurs qui cherchent à réinventer le cuir, il y a des aides, il y a des fonds d'investissement.
Oui, il y a un premier fonds d'investissement qui a été lancé bien l'été dernier. Son nom, c'est Cuir Invest. 5 millions d'euros pour accompagner les jeunes entreprises comme les vôtres qui sont innovantes dans ce secteur, notamment celles qui planchent sur des nouveaux procédés de fabrication ou la création de matériaux alternatifs. On est en plein dedans parce que la créativité de cette filière cuir aujourd'hui, de cette créativité dépend aussi l'avenir des géants français du luxe, dans les années à venir.
Alors, vous nous parliez de la paille, de l'ananas. C'est vrai que ce sont des choses qu'on connaît un petit peu.
Oui.
Ce qu'on connaît moins, effectivement, c'est le raisin, par exemple,
oui.
Ou la peau de mangue. C'est-à-dire que n'importe quel aliment aujourd'hui va peut-être pouvoir vous servir de base de travail.
C'est ça. Maintenant, le plus dur, c'est surtout la durabilité dans le temps. C'est là-dessus où je suis assez intraitable. J'ai pas envie que l'objet dure juste une semaine, hein. c'est pas le but. Donc là, pour l'instant, on travaille surtout, on expérimente beaucoup. J'ai vraiment besoin que l'objet dure le plus longtemps possible. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas toutes les matières végétales.
Comment est-ce que vous sourcez vos matières ? Comment est-ce que vous les trouvez ? Vous les récupérez ? Vous pouvez travailler comme pour les peaux de poisson avec des restaurants, notamment je pensais à la peau de mangue.
Alors je travaille beaucoup avec des chercheurs et avec des fabricants qui ont déjà besoin de voir déjà si leur produit tient la route. Je conseille aussi parce que souvent... par exemple, la fibre d'ananas, c'est très épais. Mais en petite maroquinerie, travailler des matières épaisses, ça coince.
Oui, voilà. Mais quand, par exemple, vous fabriquez un porte-carte en champignons, vous allez cueillir vos champignons ? Vous les trouvez où ? Qui est-ce qui vous les fournit ?
Alors, celui-là, le champignon, il vient d'Italie.
D'accord.
Voilà, c'est une entreprise qui fait ça. Et c'est un champignon qui va libérer des spores. Et du coup, il va être mélangé avec du lin ou du chanvre. Et ensuite, on aura cette fameuse matière.
On reste ensemble et on continue à parler cuir et alternatives aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Et si le liège ne servait pas qu'à faire des bouchons ? C'est ce que fait Magel qui réalise ses sacs à partir de cette matière. A tout de suite.
Comme tous les jours, on vous retrouve, Raphaël Duchemin, avec La France Bouge. Une France qui bouge aujourd'hui en matière de cuir. Quelles sont les alternatives ? Eh bien, nos invités sont là pour nous les présenter. Et n'oubliez pas que vous aussi, un auditeur, vous pouvez participer en nous appelant au 39-21, 50 centimes la minute.
Ah oui, quand on pense liège, tiens, par exemple, on pense semelle, on pense bouchon, on pense plateau pour fruits de mer. Or, aujourd'hui, la matière peut avoir bien d'autres débouchés. Bonjour Magali Rotland.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice de Magel. Vos sacs sont fabriqués en liège. Racontez-moi comment est née l'aventure et pourquoi vous vous êtes intéressée au liège en particulier.
Alors, l'aventure a commencé. Moi, je me suis remis à la couture lors d'une grossesse.
Oui.
Comme souvent. Et j'étais très intéressée, bien sûr, par la maroquinerie. J'ai eu une formation de maroquinerie quand j'étais beaucoup plus jeune. Et du coup, j'ai voulu me remettre là-dedans. J'ai d'abord commencé par des matières comme le simili, où j'étais très déçue au niveau de la qualité, de la tenue dans le temps. Et c'était pas...
Oui, ça correspondait pas forcément à vos valeurs.
Exactement, ça correspondait pas à mon éthique. Donc, je me suis dit au départ qu'au niveau qualité, j'ai essayé le cuir, le vrai cuir. Mais c'est pareil, ça me correspondait pas. Alors, c'est de très belle qualité, certes, mais il y avait quelque chose qui m'allait pas. Et j'ai découvert donc le tissu de liège.
Tissu de liège.
Oui, alors on dit tissu de liège pour pas dire cuir, parce que c'est pareil.
Parce que le cuir, c'est voilà. Forcément une peau, donc un animal.
Tout à fait. Donc, quand j'ai découvert cette matière, je l'ai essayé et j'ai totalement adopté parce que j'ai vraiment craqué sur toutes les qualités.
Oui, alors vous dites, je suis revenue à mes premières amours parce qu'effectivement, vous aviez fait, je crois, un CAP maroquinerie.
Oui, à la sortie de l'école, j'avais fait un CAP maroquinerie. Et derrière,
puis pendant des années, vous êtes allée faire autre chose.
Exactement.
Votre liège, quand vous avez commencé à le travailler, qu'est-ce que vous avez fait en premier?
Moi, j'avais déjà fait pas mal de sacs en simili et en cuir, donc je suis tout de suite, j'ai tout de suite gardé mes modèles en fait pour le liège parce que ça se coud très bien. Enfin, moi, je couds à la machine et ça se coud vraiment très bien. C'est très souple et très léger, donc en machine, ça passe aussi bien que du tissu ou même c'est même plus facile que du cuir.
C'est plus facile que du cuir parce que c'est robuste et c'est souple.
Voilà, c'est souple et robuste en même temps et très léger.
Vous avez la possibilité de, et on en a quelques exemples ici hein, sur europe1.fr pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble. Vous avez la possibilité de décliner dans plusieurs couleurs le liège. Oui. On peut le teinter.
Tout à fait. En fait, moi, je le prends en usine directement. Hein, je choisis les couleurs. Je le prends directement dans l'usine au Portugal. Et il y a toutes les couleurs qui sont possibles. Il y a des imprimés. Il y a vraiment tout est réalisable.
Au Portugal, parce que c'est un des plus gros pays producteurs de liège aujourd'hui.
C'est le plus gros pays producteur et c'est là où il y a la meilleure qualité surtout.
Riyad, je vous vois regarder les sacs avec...
En fait, je suis impressionné par la technicité du produit, puisque pour moi, les seuls produits que j'ai vus en liège, c'est un peu un assemblage de bouchons de champagne, quoi. Donc on voit bien que c'est du liège. Et là, je suis quand même impressionné. Et le toucher, et la légèreté, et le rendu final, j'arrive plus à voir où il est le liège là-dedans, mais en tout cas, c'est très joli, bravo, quoi.
Merci.
Fanny, on parlait des options végétales, on a parlé tout à l'heure un petit peu du cuir de raisin, ça c'est vraiment en train de se développer.
Oui, du cuir à base de marc de raisin, pour être un peu plus précise. Alors on réutilise comme ça les tiges, les grains, les peaux des raisins. Alors c'est balbutiant en France, hein, vous le disiez, on commence tout juste, mais les premiers résultats côté italien sont très prometteurs. Le toucher du cuir est notamment très réussi et ça intéresse la marque de voiture de luxe Bentley, s'il vous plaît.
Ah oui, quand même. Autre option toujours dans le végétal, l'ananas, mais alors là pour le coup c'est pas forcément du made in France.
Alors on sort du made in France parce que l'ananas ne pousse pas en métropole évidemment, mais ça pourrait être une bonne piste hein, pour l'ananas de la Réunion par exemple. Fabriquer ce cuir végétal et on utilise les fibres des feuilles d'ananas, donc on est bien sur l'idée d'un sous-produit, d'une économie circulaire, pas de pollution supplémentaire, c'est solide, ça résiste à l'eau et on peut même imprimer dessus.
Magali Rotelan, ce matériau aujourd'hui, je veux pas dire cuir, alors j'essaye de trouver d'autres noms. Vous avez l'intention de le développer autrement? Vous avez d'autres idées pour essayer de développer finalement la gamme?
Ah oui, j'ai plein d'idées en tête. J'en ai là. Bon, j'ai pas tout amené, bien sûr, hein, parce que j'en fais énormément et j'en ai plein la tête. J'ai même du mal à faire plusieurs fois les mêmes. Parce que j'ai vraiment une...
Mais quel développement on peut imaginer aujourd'hui pour une filière comme celle-là?
Moi, ça reste en maroquinerie, hein, de toute manière, hein, mais j'ai plein de modèles à concevoir.
Vous êtes combien à travailler sur ces
seule.
Produits? Vous êtes toute seule? Vous aimeriez grandir, grossir aujourd'hui?
Alors, pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, non, je préfère, je suis bien toute seule.
Je suis bien toute seule. Vous êtes bien toute seule.
Oui.
L'idée, c'est de vraiment montrer aujourd'hui aux Français qu'il y a d'autres options possibles.
Il y a d'autres alternatives en restant dans la qualité, la robustesse et avoir une éthique dans le respect animal.
Quand vous avez fait votre CAP maroquinerie, vous ne pensiez pas un jour y revenir et faire ce genre d'objet avec des matières qui n'ont plus rien à voir avec le cuir?
Exactement, non, je ne pensais pas du tout. C'est sûr que ça m'est venu assez récemment.
Vous avez l'intention de travailler autre chose que le liège?
Pourquoi pas? Pour le moment, je suis assez là-dessus, en fait. Mais c'est vrai que je suis assez intriguée par les autres matières que j'ai découvertes aussi, hein, que je connaissais de nom, mais que j'avais encore pas touché. Et ça m'intéresse aussi, c'est vrai que...
Riyad.
Je pense qu'ils vont monter une boîte toutes les deux. Peut-être tous les trois avec le poisson.
Oui,
en
peut-être. Il y a aussi un autre aspect, c'est que le liège rejette du CO2.
Tout à fait. Alors de l'écorçage, en fait, on écorce les chênes lièges tous les 9 ans et ça permet de libérer 30% d'oxygène en plus.
Donc, on est toujours effectivement dans ce cercle vertueux hein, dont on parle depuis le début de cette émission. On reste ensemble et on continue à parler alternatives et cuir aujourd'hui.
Il est 13h36.
Europe 1.
Et on attend évidemment vos questions, vos remarques. 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. La France bouge avec vous et grâce à vous. À tout de suite.
Le cuir est une matière omniprésente en France, mais il existe des solutions plus écologiques et éthiques. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui dans La France bouge jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et avec vous également. On vous attend, hein. On attend vos messages sur europe1.fr ou alors sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oui, nous sommes avec Benjamin Malatré, cofondateur d'Ictios, start-up qui valorise les peaux de poisson en cuir de luxe. Paola Bord, fondatrice créatrice de la marque du même nom, maroquinerie d'art végétal, et Magali Rotland, fondatrice de la marque Magel qui réalise des sacs à main en liège, de la maroquinerie en liège. Notre coach aujourd'hui, c'est Riyad Boulanoir, cofondateur du compte Nickel, fondateur de la méthode Boulanoir, et à mes côtés, Fanny Rascle aujourd'hui pour nous éclairer sur justement ces alternatives. Moi, je voudrais savoir, Benjamin, vous avez la possibilité comme ça de travailler... Ah, voilà, ça c'est un casque qui vient de tomber. Hein, de travailler toutes les peaux de poisson, ou vous avez déjà testé d'autres peaux?
C'est ça, on en teste plusieurs, on a toujours un petit peu d'autres peaux en stock. Et après, ce sera vraiment d'aboutir à un produit, à un cuir qui est utilisable et qui correspond aussi à une diversité, donc qui ne sera pas rigoureusement comme le saumon, par exemple.
Mais tout est utilisable réellement ou pas?
Aujourd'hui, on n'est jamais entré en confrontation avec un matériau qui ne serait pas transformable. C'était pas encore arrivé. On a réussi à tout transformer.
On parlait des couleurs, puisque vous teintez évidemment ces peaux. Vous utilisez des produits naturels.
Alors pour la teinture, non. C'est pas possible aujourd'hui au niveau technique. C'est-à-dire qu'on arriverait sur des cuirs qui deviendraient gris au bout de 2 mois. On arriverait très difficilement à reproduire le même coloris aux exigences qui nous sont demandées. Aujourd'hui, on est sur les mêmes solutions, excepté on enlève toutes les parties métalliques, tous les colorants métalliques, tous les colorants, on va dire, problématiques.
Même question pour vous, évidemment, sur tout ce qui est couleur. Comment est-ce que vous faites, Paola, pour teinter vos sacs ou pour les patiner? Parce que je crois que vous avez créé un produit spécial pour le liège, justement.
C'est ça, j'avais un petit problème avec le liège, c'est que même l'objet végétal en lui-même, il s'embellit pas très bien avec le temps, et je voulais vraiment que l'objet s'embellisse avec le temps, se patine comme un véritable cuir. Et j'ai mis au point une petite crème que j'applique sur la matière. Et avec le temps, l'objet devient limite un trompe-l'œil.
Et sur les couleurs, sur ce que vous utilisez, alors, on est aussi sur du naturel?
Sur les couleurs, à l'heure d'aujourd'hui, je commence à plus les faire moi-même parce que j'ai plus le temps. Mais j'utilise bien sûr des teintures naturelles. Je rejoins un peu ce que disait notre confrère là.
Oui, Benjamin Malatré pour Ictios. Même question pour vous, hein, Magali Rotland. On est sur des produits qui sont véritablement 100% naturels,
oui.
Y compris quand on va chercher la couleur.
Oui, tout à fait. Ça s'est fait en usine. Moi, je les achète déjà teintés en usine au Portugal. Et c'est fait de manière naturelle.
Manière
oui.
Artisanale. Mm-hmm. Riyad?
Ouais, moi je trouve ça génial, ces entrepreneurs qui ont du sens, parce que c'est ce qu'on a défendu depuis tout à l'heure, entre le recyclage, l'économie circulaire, etc. On n'a pas parlé d'argent, on a parlé beaucoup de sens. Bah, je tenais à vous féliciter, en tout cas, bravo.
Merci. Et Benjamin, sur le tannage également, il y a des points de vigilance à avoir au niveau des produits chimiques, toute cette phase avant d'en arriver à ces belles peaux qu'on a sur le plateau?
Alors c'est une longue histoire, hein, le tannage. Il y a en gros 3 procédés différents dans le cuir. Le premier, il est pétro-sourcé, c'est les cuirs synthétiques. Le second, qui représente la majorité des volumes, c'est du cuir au tannage au chrome, donc avec des métaux.
Donc là, gros warning d'un point de vue environnemental.
Pas forcément, il faut faire attention. Il y a aussi un bashing là-dessus, c'est-à-dire qu'en France, si on utilise utilise le Chrome de manière très intelligente et très bien cernée, on sait bien le faire aujourd'hui en France, il n'y a pas de problème. Par contre, quand on va à l'étranger et que tous les effluents sont rejetés dans la nature, là, c'est un vrai problème. Nous, on a fait un autre choix, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là. On a fait le choix d'utiliser des tanins végétaux, en fait, donc des écorces, des feuilles, des racines d'arbres, qui vont aider le cuir à se patiner, qui vont apporter une odeur au cuir, et surtout qui maximisent l'utilisation de ressources renouvelables.
Vous avez une levée de fonds qui est en cours ?
Exactement, une levée de fonds en cours de 300 000 euros, de coup sur le début d'année, pour justement, on a fini la R&D, on a créé la première tannerie en France depuis 50 ans, et maintenant l'idée c'est d'aller plus loin, d'aller trouver des clients en France, à l'étranger, etc. Donc on se structure là-dessus aussi.
Même question sur le développement, Paola, comment est-ce que vous imaginez la suite aujourd'hui ?
Alors, j'imagine peut-être avoir plus de mains, parce qu'aujourd'hui, j'en ai que deux ou quatre, hein. C'est pas grand-chose.
Donc, embaucher.
Voilà, c'est ça. Et surtout, peut-être avoir de nouveaux outils qui me permettraient de découper, par exemple, plus rapidement.
Investir. Et pour ça, il faut, je suppose, un peu d'argent, un peu de fonds pour vous soutenir.
C'est ça, mais actuellement, plutôt bonne nouvelle. Les fonds vont arriver, donc on va pouvoir réapprovisionner plus vite.
Vous avez toujours cette idée aussi de filière à développer, d'école peut-être à mettre
c'est
en
ça.
Place.
Oui, mon petit rêve, c'est vraiment qu'il y ait un diplôme, tout simplement qu'on puisse apprendre ça à l'école. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
Magali, vous avez envie de rester seule, mais pour l'instant, peut-être qu'un jour, sait, ça pourra se
tout
développer.
Tout à fait, si ça se développe, ça sera vraiment, ça, c'est sûr, ça serait très bien. Hein, mais moi, pour le moment, je m'imagine comme ça, parce que c'est comme ça que je suis. Maintenant, moi, ce que je recherche plutôt, c'est des points de vente, des boutiques et des lieux de vente, en fait, en direct, parce que je me rends compte que les clients ont plus de mal à acheter sur Internet tant qu'ils n'ont pas vu et touché la matière. Et qu'en boutique, c'est plus facile.
On vous le demande de plus en plus aujourd'hui. Vous vous rendez compte qu'il y a, il y a une...
Et une fois que les gens ont vu cette matière et ont touché, ils sont vraiment ébahis. Voilà, ils sont vraiment ébahis. C'est vrai que sur Internet, bon,
c'est
qu'une photo et on ne sait pas trop ce qu'on va recevoir. Et du coup, les gens sont un petit peu...
Est-ce que ce sont les véganes qui viennent vous acheter ou est-ce que finalement, ça...
J'ai envie de dire, entre autres, tout le monde.
Entre autres.
Il y a des véganes, oui. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est pas ma cible principale. Le produit est vegan, il y a pas de souci. Maintenant, c'est pas forcément, ça peut convenir à tout le monde. C'est pas forcément là-dessus que j'axe ma communication non plus, parce que je veux vraiment être ouverte à un maximum de personnes.
Et en tout cas, c'est vrai que c'est bluffant, c'est impressionnant ce que vous faites tous les trois. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ces alternatives au cuir aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
On va rester ensemble et voilà quelqu'un qui va pigmenter notre quotidien grâce au moulin à couleurs. C'est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et il est 13h50, alors il est temps de découvrir l'entreprise qui va bien, Raphaël.
Oui, et cette entreprise, eh bien, c'est le Moulin à couleurs. Bonjour Emmanuel Poix.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vous qui êtes à la tête de cette très belle maison qui existe dans les Ardennes depuis 1866. Vous travaillez les ocres, la terre de Sienne, les oxydes de fer. L'aventure a commencé avec une famille qui n'est pas la vôtre, qui est la famille Boisé, Désiré Boisé, qui va commencer à exploiter les carrières dans les Ardennes. Comment est-ce que lui vient cette idée ?
C'est surtout en raison de la présence de terre de Sienne dans les Ardennes. C'est ça qui a fait que le moulin à couleurs a été créé. Une terre de Sienne fortement chargée en oxyde de fer, donc un matériau très riche pour faire des bons pigments colorants.
Oui, on va venir extraire les pigments, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Notre activité est relativement simple. On extrait des terres, on les sèche ou on les brûle et ensuite on va les broyer pour les réduire sous forme de poudre.
Trois générations vont se succéder chez les Boisé. Et puis, un jour, c'est votre famille qui rachète, c'est votre père qui arrive.
Oui, c'est ça. Donc,
dans l'aventure.
Monsieur Jean Boisé a pris sa retraite en 1992. Mon père habitait juste à côté, à environ une dizaine de kilomètres de l'usine.
Il travaillait dans le béton, votre père.
Oui, c'est ça. Donc, pas du tout les pigments. Alors après, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'il a voulu être son propre patron ? Voilà, donc là, c'est pour ça que c'était un petit peu un challenge pour lui. Donc, en 92, il a racheté l'entreprise pour vraiment créer la SRL, le moulin à couleurs, tel qu'elle existe aujourd'hui.
Alors, pourquoi est-ce que vous êtes situé à cet endroit-là ? Il y avait tout ce qu'il fallait finalement pour pouvoir fabriquer ces pigments. Il y avait la rivière, notamment.
Il y avait la rivière, donc c'est l'eau Foivre qui coule juste dans le fond de l'usine, qui faisait tourner les meules du moulin. Et surtout la présence de terre de Sienne dans les Ardennes.
Alors la terre de Sienne, le moulin, la rivière, on fabrique toujours de la même manière à l'ancienne aujourd'hui ou ça a évolué ?
Les process n'ont pas beaucoup évolué, mais par contre, on n'utilise plus la force hydraulique. Ça c'est en raison de du petit ruisseau qui coulait dans le fond de l'usine, qui avait des fortes variations saisonnières. Donc pour avoir une rentabilité et puis de bien lisser sur l'année, on pouvait pas travailler toujours avec ce ruisseau. Donc petit à petit, les roues à aubes ont été mises de côté et maintenant on travaille avec des broyeurs électriques.
Alors ce broyeur électrique, il va venir chercher la matière brute finalement l'écraser, comment ça se passe?
On va extraire les terres une fois ou deux par an. Mm-hmm. Donc pour les rentrer dans des locaux de stockage. Ensuite on va les sécher ou les chauffer. Donc par exemple on a une terre jaune, comme elle est fortement chargée en oxyde de fer, quand on la chauffe à 700 degrés, elle devient rouge. Là, ces deux échantillons, ceux que vous aviez à la main.
Oui. En fonction de la chaleur, si on est à 200 degrés ou à 700, on va pas obtenir la même teinte ?
Oui, c'est ça. Donc on va oxyder les terres et ensuite on va aussi faire des mélanges de terres pour obtenir différentes teintes.
Vous travaillez avec des façadiers, avec des peintres en bâtiment. Vous pouvez tout teinter aujourd'hui ?
J'ai tendance à résumer en disant on colore tout ce qu'on veut sauf l'alimentaire. Après bon voilà c'est rapide, mais c'est vrai qu'on travaille aussi bien avec des artistes peintres qui vont travailler avec la pointe du pinceau, par exemple les gens qui font de l'enluminure, donc là qui vont nous prendre quelques grammes par an. On a aussi des façadiers, des restaurateurs du patrimoine ou des fabricants d'enduits qui, eux, vont travailler en sac de 25 kilos et qui vont plutôt travailler à la tonne avec nos pigments.
Vous dites effectivement, vous parlez de patrimoine, vous avez participé à de nombreux chantiers de restauration, l'abbaye du Mont-Saint-Michel par exemple, ou même la salle des fêtes de l'Élysée.
Oui, c'est ça. Dernièrement, on a eu la chance d'être invité à l'exposition Fabriquée en France, à l'Élysée. Et donc, les gens me demandaient, qu'est-ce qu'on peut faire avec vos pigments? Je leur disais, à l'Élysée, levez la tête, les plafonds de la salle des fêtes de l'Élysée sont restaurés avec des pigments naturels.
Riyad Boulanoir, notre coach.
Moi, je me posais une question toute bête. Est-ce que c'est une ressource qui s'épuise? Le fait d'en prendre tous les ans, deux fois par an?
Alors, on n'est pas dans le renouvelable, bien sûr, les terrains. Mais par contre, on a des terres, on a une carrière qui est ouverte sur une ouverture de carrière qui est en préfecture pour 25 ans. Donc là, il nous reste encore 5 ans à tirer sur cette terre-là. Et après, il y a encore d'autres terres, d'autres carrières qu'on pourra ouvrir à côté. Franchement, le gisement sur les Ardennes, vu ce qu'on consomme à l'année, il y a du stock.
Vous êtes la dernière fabrique aujourd'hui.
Alors,
comme ça, en
on
France,
joue un petit
une
peu
des
sur
dernières
les
fabriques.
On est la dernière fabrique de terre colorante. Il y a aussi les ocreries dans le sud à Roussillon.
Oui.
En fin de compte, en fabrique de pigments minérales en France, nous sommes deux, les ocres à Roussillon et nous dans les Ardennes.
La suite, c'est quoi? Vous nous dites dans 5 ans, on va, entre guillemets, changer de lieu. Cette ressource-là, elle est inépuisable. On peut continuer comme ça pendant toute une vie, finalement, à exploiter et à poursuivre la tradition.
Oui, je pense que oui. L'usine existe depuis 154 ans. J'espère qu'on en fera encore au moins autant derrière. Les enfants reprendront peut-être l'entreprise derrière.
Oui, vous êtes donc, combien après, aujourd'hui à travailler?
Nous sommes à 5. On est 2 personnes en administratif et 3 personnes à la production. Le personnel, on change de temps en temps et on n'a pas de formation pour apprendre notre métier. On apprend sur le tas. J'ai toujours tendance à dire, comme on a des tas de terres, ça marche bien. Mais c'est vrai que c'est une activité relativement manuelle.
Voilà. La suite, donc, c'est les enfants.
On verra.
Ils ont envie aujourd'hui.
Sûrement, ouais. Ouais.
Oui.
On les emmène régulièrement sur les expositions et autres. Ma fille a 20 ans, mon fils a 13 ans. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu le même discours que moi sur l'activité, quoi. Donc ça rassure.
Ça rassure et ça permet de faire perdurer finalement une entreprise qui date de 1866, qui a aussi le label Entreprise du patrimoine vivant.
Oui, c'est ça. On a le label Entreprise du patrimoine vivant depuis 2010.
C'est le Moulin à couleurs, en tout cas c'est un très joli nom, c'est dans les Ardennes, je vous invite à aller découvrir ces couleurs parce que c'est vraiment magnifique. C'est l'entreprise qui va bien, merci Emmanuel Poix d'être venu nous en parler aujourd'hui, merci à Riyad Boulanoir qui était notre coach.
Merci.
Fanny, on se donne rendez-vous demain. Demain sur Europe 1 pour La France Bouge avec vous Justine.
Oui, merci Raphaël Duchemin, à demain, en attendant bien sûr votre lundi continue avec Christophe Fondelatte, Christophe qui vous racontera aujourd'hui l'affaire de Kevin Cellier, mort pour 400 euros. C'est dans un instant sur Europe 1.